France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Inciter au retour à l'emploi et faire des économies au passage, double mantra du Premier ministre qui doit annoncer aujourd'hui une énième réforme de l'assurance chômage. Nouveau durcissement en vue, on va faire le point. Les opérations PlaceNet XXL contre la drogue sont-elles vraiment utiles pour démanteler des trafics entiers? Magistrats et policiers mettent en doute la stratégie du gouvernement, vous les entendrez. À suivre aussi ces trois gardes à vue dans l'enquête sur la disparition de Lina en Alsace. En Italie, Bologne passe presque entièrement à 30 km/h. Ça ne plaît pas au gouvernement. Et puis le réveil des Bleus du foot face au Chili.
France Inter. Vers un nouveau serrage de vis pour les chômeurs.
Au lendemain de l'annonce d'un déficit public bien plus important que prévu et alors que Gabriel Attal parle désormais de rigueur, on devrait être fixé dès aujourd'hui sur la première économie budgétaire à venir. Elle concerne, oui, l'assurance chômage. Au cœur d'un séminaire gouvernemental sur le travail ce matin à Matignon, avant des annonces du Premier ministre ce soir à la télévision, l'objectif ne fait pas de doute, Simon Le Baron.
C'est la troisième fois que le gouvernement va durcir les droits des chômeurs après 2019 et 2023. Il a déjà raboté la durée maximale d'indemnisation, il a déjà allongé le temps qu'il faut avoir travaillé pour avoir droit à des allocations. Il veut aller encore plus loin. L'exécutif n'y voit que des avantages, des économies immédiates, des rentrées d'argent grâce aux impôts de ces chômeurs incités à reprendre un emploi, et un discours politique censé répondre aux classes moyennes qui jugeraient le système trop généreux avec ceux qui ne travaillent pas. Pour faire bonne mesure, le Premier ministre devrait aussi avancer ce soir des pistes pour encourager les entreprises à tirer les salaires vers le haut, à assouplir les règles sur le télétravail ou à mieux aménager les emplois du temps. Mais à quelques semaines du verdict des agences de notation sur la dette française, l'urgence est à la réduction des dépenses sociales. C'est bien pour cela que Gabriel Attal reprend la main sans attendre la fin des discussions entre syndicats et patronats qui devaient se terminer hier et qui ont été prolongées jusqu'au 8 avril.
Rejeté par le Sénat la semaine dernière, le projet de ratification du CETA ne sera pas transmis à l'Assemblée avant les élections européennes. Le ministre du Commerce extérieur l'annonce ce matin dans le Figaro. Ce traité de libre-échange avec le Canada est devenu un sujet inflammable et risqué pour l'exécutif, après donc le cuisant revers subi à la Chambre haute. Franck Riester ne souhaite pas, dit-il, que l'opposition instrumentalise ce débat légitime à des fins électoralistes. Malika Sorel a-t-elle tenté d'entrer au gouvernement lors du dernier remaniement? Interrogée sur ces révélations du canard enchaîné, la numéro 2 de la liste RN pour les européennes reconnaît des échanges par SMS avec Emmanuel Macron en décembre dernier. « J'ai redit ma volonté d'aider la France, en particulier sur les questions d'éducation », affirme cet essayiste, autrefois proche de François Fillon, et qui dit être aujourd'hui à l'opposé du chef de l'État sur la laïcité.
Quel bilan pour les premières opérations PlaceNet XXL contre le trafic de drogue?
Lancées depuis 10 jours à Marseille, Dijon, autour de Lyon, de Lille, de Paris, elles ont déjà permis, selon le ministère de l'Intérieur, 500 interpellations. Objectif pour la place Beauvau, démanteler des points de deal en totalité. Mais côté policiers et magistrats, de premières critiques commencent à se faire entendre. Trop de com, disent certains, au détriment des enquêtes sur le temps long pour remonter jusqu'aux têtes de réseau. Sarah Guibaudot.
À Marseille, avec jusqu'à 900 policiers mobilisés, on est à 30 kilos de cannabis et 1 kilo de cocaïne. Plus discrètement, la semaine dernière, des juges d'instruction de Nancy ont démantelé un réseau d'importation avec plus de 800 kilos de drogue saisie. Policiers et magistrats reconnaissent l'intérêt des opérations PlaceNet pour la population des quartiers concernés. Mais pour Frédéric Massé, président de l'Association des juges d'instruction, elles ne vont pas endiguer le narcotrafic dont les commanditaires vivent ailleurs.
Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déploiement de plusieurs centaines de fonctionnaires de police, de douaniers, de gendarmes, et que de facto, c'est autant d'enquêteurs de moins qui vont pouvoir traiter les enquêtes de longue haleine.
Yann Bozin préside l'Association nationale de police judiciaire. Pour lui, ces opérations peuvent même produire des effets pervers.
De se concentrer et d'affaiblir des petits trafiquants locaux va pousser certains petits criminels à aller chercher de l'aide auprès des grosses organisations qui peuvent se permettre d'encaisser les pertes financières entraînées par des opérations PlaceNet, même les pertes d'effectifs.
Les procureurs saluent une approche globale qui vise aussi le travail au noir ou la fraude stands dans les commerces. Ils ont demandé à bien être associés à la préparation en amont, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'enjeu sera d'inscrire ces opérations dans la durée.
6 mois après la disparition de Lina en Alsace, l'enquête a connu un nouveau rebondissement hier avec l'annonce de 3 gardes à vue. Un couple convoqué par les gendarmes et un homme interpellé chez lui. Alors les enquêteurs restent très prudents. Il s'agit surtout à ce stade de vérification d'emploi du temps. Mais dans la commune de l'adolescente, on espère le dénouement rapide de cette affaire. Reportage Olivier Vogel, France Bleu Alsace.
Ces derniers jours, les habitants de la vallée de la Bruche avaient constaté un regain d'activité des gendarmes. Hier et avant-hier, un étang et un puits sondés au col de Stège à Ranru et ces gardes à vue que l'on imagine comme une petite lueur d'espoir 6 mois après la disparition de Lina, notamment dans la supérette où la jeune fille était en stage à Saint-Blaise-la-Roche. Morgane y est employée.
Ça suscite de l'espoir forcément. On pensait voir l'enquête ne plus avancer. Au final, on entend qu'il y a des gens en garde à vue. Donc tant mieux. J'espère que c'est du concret.
Un espoir partagé par la maire de Plaine, Patricia Simoni.
Je pense que tout le monde est en attente d'une fin à cette pénible histoire. J'espère que ça va aboutir à quelque chose, et au moins pour la famille, pour arriver à avancer dans cette épreuve. C'est surtout pour la maman. C'est terrible. Mais bon, il faut qu'on arrive au bout de cette histoire.
Un peu partout dans les commerces de la vallée de la Bruche, de petites affiches ont fleuri. Elles annoncent un concert solidaire le samedi 20 avril. Il est organisé par les Bonnes Étoiles de Lina, l'association créée par la mère de la jeune fille.
À l'étranger, c'est l'image de la nuit, une légion d'honneur remise en pleine forêt amazonienne. Le chef Raoni, figure de la défense de l'Amazonie, a reçu la prestigieuse distinction des mains d'Emmanuel Macron, le président français qui a entamé 3 jours de visite d'État au Brésil par l'annonce, aux côtés de son homologue Lula, d'1 milliard d'euros d'investissements publics et privés pour l'Amazonie dans les 4 prochaines années. Aux États-Unis, les recherches sont suspendues à Baltimore et les 6 personnes disparues après l'effondrement d'un pont sont présumées morte par les autorités. Il s'agit d'ouvriers du BTP qui travaillaient sur ce pont en pleine nuit quand il a été heurté par un porte-conteneur. Joe Biden promet que l'État fédéral payera la totalité de la reconstruction de l'ouvrage. En attendant, la fermeture temporaire du port de Baltimore devrait avoir un impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement de la côte Est. Une ville presque entièrement à 30 km/h à Bologne en Italie, 400 000 habitants. La mesure ne passe pas. Il faut dire que c'est une première pour une grande ville italienne. Et Bruno Duvic, la controverse devient là-bas politique et nationale.
Un grand boulevard près du centre de Bologne. Le taxi s'appelle Denis Lodi.
Oui, c'est une rue à 30. Même le dimanche matin, quand il n'y a personne dans les rues, tu dois rouler à 30.
Denis nous dépose devant le syndicat USB où attend Francesco Vito. À la pointe de la contestation, il y a les chauffeurs de ces bus bondés depuis janvier. La durée des trajets est rallongée.
En moyenne, c'est 4 à 5 minutes en plus. Donc au lieu d'avoir un bus toutes les 5 minutes, c'est toutes les 7, parce que le nombre de chauffeurs n'a pas changé.
Ils demandent plus de contrôle dans leurs couloirs, alors que les cyclistes augmentent de 10% par an, plus vite que les pistes cyclables. Quant aux amendes infligées aux automobilistes, leur nombre reste contenu, mais le pari de la sécurité est déjà gagné pour l'adjointe à la mobilité, Valentina Orioli.
On est à 19% de blessés en moins et en moyenne les accidents sont moins graves.
Les embouteillages des premiers temps rendent le bilan écologique difficile. La bataille est maintenant entre le ministre des Transports d'extrême droite et le maire de Bologne, à gauche. Au nom de l'unité du code de la route en Italie, Matteo Salvini exige l'abandon des 30 à l'heure à Bologne.
Bruno Duvic à Bologne pour Inter.
Les Bleus du foot se rassurent un peu.
Sans pour autant lever tous les doutes. Victoire 3-2 hier soir en match amical contre le Chili au stade Vélodrome. Alors c'était mieux que samedi face à l'Allemagne, mais pas la copie parfaite non plus. Parole de supporter à votre micro, Julien Froment.
Au petit jeu du carnet de notes, il y a les bons élèves. C'est le cas de Randal Kolo Muani.
Un but, une passe décisive. C'est bien, surtout, je pense, il en avait besoin aussi, parce qu'avec Paris, on sait que c'est compliqué.
Randal, il en a gagné peut-être ce soir. Très bon match.
Un match salué par son coéquipier, Ibrahima Konaté.
Je pense qu'il a montré à tout le monde les qualités qu'il avait aujourd'hui. Et j'espère que ça va lui donner une confiance supplémentaire et qu'il va, excusez-moi du terme, tout arracher avec le Paris Saint-Germain.
L'attaquant parisien a marqué des points en vue de la liste du mois de mai. D'autres, un peu moins. Alexis et Nathan ont un joueur en particulier dans le viseur.
Upamecano un peu moins bien, c'est un peu difficile pour lui.
Upamecano, hein, au match contre l'Allemagne, il a clairement été en dessous. Et là, on voit avec la paire Konaté-Saliba, honnêtement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi.
Alors, c'est bien connu, il y a 68 millions de Français et autant de sélectionneurs, mais il n'y en a qu'un qui décide, c'est Didier Deschamps. Avec ces deux matchs, il a obtenu quelques éléments de réponse.
Tous ont joué, c'était un objectif pour justement avoir des réponses supplémentaires. Je n'avais pas d'incertitude avant, je ne vais pas en avoir plus maintenant.
Deschamps qui confiait connaître déjà à deux ou trois éléments près les 23 joueurs qui iront à l'Euro en juin prochain, a encore un mois et demi devant lui pour ajuster sa liste.
Les Bleus qui connaissent désormais leur troisième adversaire des phases de poule de 7 euros. La Pologne s'est qualifiée hier soir en barrage. Elle rejoint donc le groupe de la France, des Pays-Bas et de l'Autriche.
Alexis Morel est maintenant un esprit sport en or, en argent et en bronze. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Mathilde.
Une exposition sur l'histoire des médailles olympiques s'ouvre aujourd'hui à la Monnaie de Paris.
Oui, avec des médailles qui appartenaient notamment à celui qui était surnommé le Finlandais volant Paavo Nurmi, parce que ça peut paraître surprenant hein, aujourd'hui Mathilde. En 1924, lors des Jeux Olympiques organisés à Paris, c'était les Finlandais qui dominaient l'athlétisme mondial. La Finlande avait d'ailleurs terminé troisième nation au classement des médailles derrière les États-Unis et la France. Et Paavo Nurmi, à lui seul, en avait ramené cinq médailles d'or, trois en individuel et deux par équipe. À ce jour, personne n'a fait mieux en athlétisme sur une seule édition des Jeux Olympiques d'été.
Pas même Carl Lewis?
Non, même pas. L'Américain, c'était quatre médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et la particularité aussi de Paavo Nurmi, c'est qu'il avait gagné deux titres en seulement 2 heures d'intervalle. Vous imaginez pour la récupération sur 1500 mètres et sur 5000 mètres. Dans sa carrière au total, il a gagné 12 médailles olympiques, établi 22 records du monde et il aurait pu en battre d'autres. Mais en fait, il a été interdit de courir avant les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1932 par la Fédération Internationale d'Athlétisme parce qu'il avait enfreint les règles de l'amateurisme. Il était passé professionnel en 1930. Il avait participé à quelques meetings d'athlétisme. Et à l'époque, eh bien, les athlètes n'avaient pas le droit de gagner de l'argent avec la pratique de leur sport. Il n'a donc pas pu gagner plus de 12 médailles olympiques.
C'est déjà pas mal. Et puis ces 5 médailles parisiennes seront donc visibles à la Monnaie de Paris pendant 6 mois.
Oui, dans le cadre d'une exposition qui est intitulée « D'or, d'argent et de bronze, une histoire de la médaille olympique ». C'est sa famille qui a accepté de les prêter pour célébrer le centenaire de cet exploit. Paavo Nurmi avait 76 ans lorsqu'il est décédé en 1973.
Et cette exposition se tient jusqu'au 22 septembre. On y voit beaucoup d'autres médailles fabriquées par la Monnaie de Paris pour des Jeux Olympiques et Paralympiques.